Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Durant toute cette saison, vous l'avez peut-être déjà compris, on va se livrer à un exercice régulier. Une fois par mois, si tout va bien, nous vous proposerons une enquête, un reportage, une série en plusieurs épisodes durant une semaine. Et, vous m'avez vu venir, la première d'entre elles ne va pas tarder à arriver. Précisément, elle commencera demain avec la série Tectonique, Danser, Mourir, Recommencer de Karim Boukercha et Quentin Bresson qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire intrigante du mouvement tectonique. Mais avant de démarrer cette exploration documentaire, on a eu envie, parce que c'est un peu notre truc, de poser les termes de la réflexion plus globale que cette histoire nous inspire. À travers elle, c'est la notion même de contre-culture, de culture alternative qu'on a eu envie d'interroger, avec en tête quelques questions. Pourquoi ces mouvements qui se construisent en dehors du mainstream semblent être systématiquement et de plus en plus rapidement rattrapés et absorbés par lui? Est-ce que l'underground est devenu impossible? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et pour répondre à tout ça, je suis allé discuter avec l'auteur et documentariste Steven Gézovanier. Il a signé de nombreux livres aux éditions Le Mot et le Reste, et plusieurs d'entre eux traitent justement de contre-culture, musicale, la plupart du temps, mais pas que. Et d'ailleurs, histoire qu'on soit pas totalement perdu, je lui ai demandé pour démarrer si on pouvait poser une définition de cette notion un peu floue de contre-culture.
C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, parce que la contre-culture, c'est un mot un peu galvaudé, on dit bon, la contre-culture, c'est des courants musicaux, etc., etc. En fait, bon, peut-être pour revenir aux racines, le concept il a été inventé en 69 par un universitaire américain qui s'appelait Theodore Rodzak et qui a théorisé un peu le truc quand il a vu Woodstock et autres. Et il s'est dit, waouh, on a affaire à une contre-culture. Alors, contre-culture, enfin, plutôt, il disait vers une contre-culture. Hein, d'ailleurs, le titre du bouquin qu'il avait sorti à l'époque. Et l'idée... Selon lui, il assistait vraiment à une contre-culture. Alors, culture au sens... On a tendance aujourd'hui à dire que c'est la culture au sens artistique, esthétique du terme. Lui, il voyait ça de manière un peu plus vaste, et je pense qu'il a raison. Enfin, en tout cas, que ça permet de préciser et de trier un peu ce qu'est une contre-culture authentique plutôt que d'un simple mouvement artistique. C'est de dire que c'est la culture au sens le plus grand du terme, quoi, la culture au sens quasiment de civilisation. Et lui, et c'est ce qui est amusant d'ailleurs, il y a la même résonance dans le vocabulaire français avec ce même double sens qui est à mon sens très intéressant, qui est de dire la contre-culture n'est absolument pas une culture, c'est pas absolument pas être contre la culture, hein, bien au contraire, c'est l'idée d'être contre la culture dominante, et de proposer une alterculture presque, un contre-modèle, une autre définition. On va chercher d'autres référents. Quand, dans la fin des années 60, les hippies qui ont inspiré, du coup, ce concept à Rodzak, ils vont aller chercher dans le bouddhisme des nouveaux référents, une nouvelle spiritualité, des nouveaux codes vestimentaires, un nouveau langage, des nouvelles habitudes, des nouveaux rapports humains, rapports sociaux, de nouvelles hiérarchies qu'ils vont essayer de casser, ils vont se mettre à vivre en colloque, dans des squats, etc. Donc il y a une vraie remise en question de tout le modèle principal. Et je crois que la contre-culture, au sens le plus précis, le plus complet, c'est ça. C'est-à-dire, au-delà même... Alors évidemment, quand on parle de contre-civilisation, de contre-modèle de culture, évidemment, ça s'accompagne de nouvelles musiques, de nouveaux graphismes, d'une nouvelle esthétique globale, qu'elle soit vestimentaire, visuelle et autres. Et donc oui, ils vont inventer un art psychédélique, une musique psychédélique. Et on a tendance à résumer la contre-culture des 60s à ça, tout comme on résumerait les punks à leur musique. Mais en réalité, il y a bien plus que ça. Il y a un mode de vie et une proposition alternative qui s'impose pas aux autres. C'est ce qui différencie aussi la contre-culture de courants qui peuvent être révolutionnaires, idéologiques ou quoi. Non, la contre-culture, elle s'établit dans les marges. Elle commence toujours par les marges. C'est là qu'elle fait son petit nid à l'abri du modèle dominant, de l'influence d'une autorité centrale, etc. Et elle fait naître ce que Hakim Bey avait appelé les zones d'autonomie temporaire, quoi. Ces espèces de petites enclaves d'utopie qui veulent s'ancrer dans le présent. Et c'est vrai que je crois qu'il y a deux slogans qui résument un peu l'essence, l'esprit de la contre-culture, qui sont « Do it now », fais-le tout de suite, et « Do it yourself », fais-le toi-même, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment les deux maximes, les deux logiques même de la contre-culture.
On tourne autour de cette idée-là depuis le début. La difficulté de la contre-culture, c'est ce jeu de regard entre son propre espace et l'espace qui est occupé par la culture dominante. Et le risque, c'est d'être aspiré par cette culture dominante. J'imagine que c'est quelque chose avec laquelle on bataillait, un élément avec lequel on bataillait tous les courants de contre-culture qui peuvent correspondre à cette définition qu'on vient de faire.
Complètement. C'est presque même le paradoxe, je dirais. Quand, si on revient du coup au modèle des hippies, là, vraiment l'épicentre à San Francisco, quand ça émerge en 65, les premiers mecs qui commencent à s'assembler dans le quartier d'Aitashbury, parce que c'est un petit quartier à loyer, pas cher et tout, donc ils se réfugient un petit peu là, et puis ils commencent à rouvrir des enseignes qui avaient été abandonnées, hop, ils refont un théâtre, une boutique, ça et ça, etc. Et ils commencent à s'assembler et à donner corps à cette nouvelle, à cette contre-culture. Très vite, il y a un paradoxe qui est de dire, on a envie que notre contre-modèle utopique devienne la norme, mais en même temps, qu'elle s'impose par le ralliement des autres. Mais tout le paradoxe est que si on s'y rallie, ça devient mainstream. Et du coup, il y a une espèce de paradoxe qui va sans doute nourrir lui-même une prochaine contre-culture parce que c'est devenu un courant dominant. Faut voir qui absorbe l'autre. Et en général, c'est la culture mainstream qui absorbe la surface de la contre-culture. Ce qui fait, à mon avis, qu'on se trompe quand on parle de contre-culture simplement au sens artistique. C'est justement. C'est-à-dire que le mainstream va absorber, avaler, ingurgiter, digérer la surface visible. Que ce soit les arts, la musique, les arts graphiques, etc. Et donc absorbe ça, mais en oubliant tout le message qu'il y a derrière. Et donc ça, c'est le paradoxe. Mais quand on remonte un peu les généalogies de la contre-culture, c'est toujours ce même mécanisme où l'un cherche à chasser l'autre et à établir des limites. Quand les hippies, d'ailleurs, les premiers hippies, c'est presque ce qu'il y a de plus drôle à San Francisco, vont refuser ce terme de hippie. Et surtout, attention, ils vont mettre en garde les autorités de San Francisco en disant « Arrêtez d'envoyer de la musique hippie, machin, les fleurs, le flower power et tout, parce que ça attire un flot gigantesque de jeunes paumés, fugueurs qui aspirent à autre chose. » Beaucoup, d'ailleurs, aspirent pas franchement à l'utopie, mais plus à la fumette, aux filles et à la musique et à l'amour libre, etc. Et du coup, font dégénérer le mouvement parce qu'il est plus capable de supporter lui-même. Et eux, les premiers hippies qui s'appelaient les freaks, refusent ce terme de hippie inventé par les médias. Ils qualifient les mecs qui arrivent avec les chemises à fleurs et les colliers de perles de plastic hippies. Et ils organisent même d'ailleurs un faux cortège funèbre où ils enterrent en procession symbolique ce hippie médiatique. Et voilà, il y a un truc amusant aussi, toujours à San Francisco. À un moment, il y a la ligne de bus Greyhound qui organise un circuit touristique à l'intérieur de San Francisco en disant on vous offre le premier circuit touristique à l'intérieur même des frontières du pays, dans un pays étranger, quoi. Venez vivre ce truc, cette expérience unique. Et donc, des bus traversent Aitashbury, ce fameux quartier qui est peuplé de Hells Angels, de freaks et autres, et de gourous et toutes sortes d'une population à la fois effervescente et diverse. Et du coup, les mecs dans le bus regardent ça avec des grands yeux en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette tribu de sauvages à l'intérieur même du pays ?» Et l'arme que vont avoir ces freaks, c'est de distribuer des petits miroirs à chacun pour leur renvoyer l'image d'eux-mêmes aux gens à bord du bus. Et je crois que la scène résume assez bien le paradoxe, quoi.
Est-ce que ça veut dire que la contre-culture, c'est nécessairement une expérience restreinte ? Ça peut pas être l'expérience d'un grand groupe, mais forcément celle d'un petit groupe.
J'ai envie de dire non. J'aimerais dire non, mais je crois que oui quand même. En tout cas, quand elle est surpeuplée, quand je veux dire, voilà, enfin je vais revenir toujours à San Francisco là. Ils font la première clinique gratuite, le premier hôpital gratuit, libre et gratuit d'Amérique. Ils organisent des distributions gratuites de nourriture, d'échanges de vêtements, etc. Il y a un vrai modèle qui s'installe et qui est assez, enfin, qui semble pérenne au début et qui aurait tendance à vouloir s'étendre, mais quand arrive ce flot gigantesque, on peut plus faire face à la vague, et du coup, c'est submergé et galvaudé, etc. Après, est-ce qu'il faut absolument que la contre-culture perdure? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut qu'elle reste, c'est quoi, la quête de la pureté, de la sincérité, de l'authenticité? À San Francisco, en Californie, plus largement, il y a cette bataille un peu entre les deux scènes, à la fin des années 60, dans le mouvement psyché, entre San Francisco, qui, elle, se revendique, ah, nous, on est la scène authentique, le Grateful Dead, Janis Joplin et tout, nous, on est les vrais de vrais. Et puis, il y a Los Angeles, qui est accusé d'être, justement, ah là là, la cité du stuc, d'Hollywood, du faux, etc., du chiquet. Pourtant, c'est Los Angeles qui a fait Zappa et autres. Et donc, toujours comme ça, il y a une revendication du puriste. À Londres, avant la British Invasion, etc., l'explosion du Swinging London, qu'est-ce que c'est? On a affaire à des petits puristes, des jeunes qui piochent et qui vont chercher les petits disques super précieux, les quelques-uns qui arrivent des États-Unis, de blues et tout, et c'est la quête de la pépite de « moi, j'ai le vrai truc » et tout. Est-ce que c'est une fin en soi? C'est ça. Et finalement, oui, la contre-culture, elle est quasi systématiquement avalée, ingurgitée par le mainstream. Mais finalement, est-ce que c'est pas sa vocation?
Mais est-ce qu'elle ne l'est pas de plus en plus rapidement, au fur et à mesure que le temps avance? Est-ce que finalement, l'industrie, là je parle peut-être plus du point de vue effectivement de l'industrie des arts, que ce soit la musique ou les arts visuels, a très vite compris à partir des années 60 que c'était dans ces mouvements-là qu'elle allait trouver des nouvelles parts de marché quelque part?
C'est vrai que l'industrie, mais bon, faut voir aussi que l'industrie musicale s'est construite à partir des années 50, vraiment, qu'elle a pris son ampleur véritable à ce moment-là. Et donc, les années 50, c'est aussi arrive cette contre-culture du rock'n'roll en même temps. Donc finalement, l'acte de naissance, il est presque simultané. La contre-culture, moi, j'aime bien faire ramener toute la généalogie de la contre-culture à Prométhée. Mmh. Donc, le mythe grec de ce titan qui vole le feu sacré des dieux pour l'offrir aux hommes. Mais finalement, quand on y regarde bien, ce mythe prométhéen est la racine même, l'essence de la civilisation. Donc, le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que l'un ne naît jamais sans l'autre. Et je pense juste que ce sont des vagues. Alors, effectivement, peut-être que l'industrie, maintenant, a l'habitude de déceler, d'aller chercher. C'est presque, peut-être même elle, qui va dire oh, là, il doit y avoir un truc qui va éclore, hop, vite, on va le prendre. Mais je crois que c'est à relativiser, peut-être, parce que, par exemple, le hip-hop, les communautés du hip-hop, ça a mis du temps avant de s'imposer, là, pour le coup, dans l'industrie, parce qu'on a eu affaire à vraiment des communautés. Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres barrages, d'autres barrières, raciales, notamment, hiérarchie sociale, etc., qui faisaient que, bon, on regardait peut-être Harlem et les quartiers blacks d'un œil hautain, et que l'industrie se dit... doutait peut-être même pas qu'il pouvait en sortir quelque chose d'aussi fantastique. Peut-être que c'est lorsque la contre-culture apparaît sous son aspect le plus singulier, le plus inattendu, et qu'elle éclot comme ça, qu'elle fait ce fameux pop, qu'elle met le plus de temps à être intégrée.
On a évoqué plusieurs fois, là, depuis le début, le terme de généalogie de la contre-culture. Ça, c'est un sujet sur lequel vous avez bossé en profondeur, on va dire. Parce qu'on a tendance, comme elle a été théorisée à partir des années 60, à la voir essentiellement sous le prisme de la musique enregistrée. Donc, effectivement, donc, d'une histoire qui commencerait dans les années 50 pour aller jusqu'à maintenant. Évidemment, ça n'est pas vrai. La contre-culture, elle a existé quasiment tout le temps. Justement, c'est quoi les grands traits chronologiques qui compose son histoire à elle?
Ah, c'est quelque chose d'assez complexe. Bon, c'est un peu osé parce que finalement, c'est très anachronique de dire je vais prendre un concept des années 60 et voir s'il s'applique à d'autres définitions dans le passé. Bon, c'est tout le jeu. C'est-à-dire qu'on peut venir jusqu'à nous, aux Anonymous, aux hackers qui se réfugient dans des marges virtuelles maintenant, mais en prenant les grands codes de la contre-culture, en disant voilà, cette recherche d'un contre-modèle, une expérimentation dans le présent, immédiate, sans confrontation directe et violente, enfin en tout cas elle essaye, avec la norme, bah, quand on prend ces codes-là, qui sont accompagnés d'une esthétique, etc., on peut reconnaître jusqu'à nous, les hackers, etc., sans difficulté, remonter les rivers, les punks, les hippies et autres, mais on peut s'amuser aussi à revenir dans le temps, à aller observer à travers même les référents des hippies, etc., de voir les communautés autonomes du début du XXe en Europe, la Bohème, Montmartre, la Commune de Paris, on peut faire un bond dans le temps, revenir au sans-culottes, etc. Donc, et ainsi de suite, on peut remonter, on peut prendre la piraterie, la dissidence religieuse en Angleterre au XVIIe siècle, elle-même qui trouve ses racines dans les mouvements hérétiques médiévaux, qui se fondaient aussi des communautés autonomes, qui cherchaient, il y en a certains, c'est très étonnant, on peut retrouver certaines communautés, les adamites ou autres, qui voulaient recréer le paradis terrestre et vivre comme, et en se disant, et c'est l'essence même de la contre-culture, en disant, plutôt que d'attendre un hypothétique paradis, faisons-le maintenant et tout de suite. Théodore Rozac le dit, en ces termes même, dans son bouquin, et en théorisant le concept, il dit, voilà, la contre-culture, elle cherche la création de la Nouvelle Jérusalem. Bon, lui, il va chercher chez des référents religieux et bibliques, mais l'idée, c'est ça, c'est recréer un paradis terrestre sans attendre une promesse de salut qui viendrait d'on ne sait où. Et donc, les adamites, par exemple, au Moyen-Âge, les mecs, ils font des communautés, ils vivent à poil, tranquille. On a l'impression de voir le stéréotype même de ce qu'on a pu voir sur des mouvements beaucoup plus récents. Et eux, les adamites eux-mêmes, s'inspirent d'un mouvement antique où il y avait déjà des adamites dans les débuts du christianisme. Et puis, comme ça, on peut remonter, puis on remonte, et puis on se rend compte qu'en fait, il y en a toujours eu. Et c'est comme ça qu'en m'amusant, et il y a même des filiations très directes, je pense par exemple aux dissenters anglais, donc à des mouvements de dissidence anglais aux alentours de la première révolution anglaise, des mecs qui vont être chassés par Cromwell et tout, et qui vont, par exemple, il y a un de ces mouvements, sont les diggers. Les diggers, hop, c'est un mouvement pseudo-religieux qui s'établit sur une colline qui appartient à un seigneur et qui dit « Bon, allez, on fonde ici notre nouveau village, on va vivre selon nos propres trucs, nos propres modes, nos propres etc. » en faisant fi de la société féodale et du reste. Et donc, ces diggers, c'est étonnant parce que parmi les freaks du premier San Francisco, y a un petit groupe qui revendique le terme de diggers et qui font tout droit cette filiation. Et quand on la creuse, elle est quasi improbable, parce que c'est des types qui étaient très cultivés, qui savaient, qui avaient ces référents qui remontaient jusque-là. Et donc, ont pris ce nom en revendiquant justement cette filiation. Et eux-mêmes, ensuite, ont été repris, le nom de Diggers, par la suite, par les hippies de A.B. Hoffman, Jerry Rubin, etc., qui ont été jetés les billets et tout sur Wall Street. Des figures un peu plus médiatiques qui ont aussi repris ce nom de Diggers. Et quand on creuse la filiation des dissenters, donc au 17e, chassés par Cromwell, ils se retrouvent dans les Caraïbes, là, oh bah tiens, c'est drôle, on en retrouve quelques-uns, en tout cas des référents dans la piraterie au 17e, et puis cette piraterie, hop, elle trouve aussi des référents là, ils partent fonder des pseudo-républiques égalitaires dans l'océan Indien et dans les Caraïbes, et puis des dissenters, il y en a qui se retrouvent exilés en Amérique du Nord, et là on les retrouve parmi les pionniers, les fondateurs de l'Amérique, avec les Quakers et autres, d'autres vont aller jusque à la conquête de l'Ouest sur la Californie, etc., donner vie à ce mythe de l'Ouest de la ruée vers l'or, en inventant aussi leur propre village avec leurs propres habitudes, faisant fi de la Bible et des commandements de la morale et autres. Et donc, c'est assez drôle comme on peut voilà, reconstituer une filiation, une vraie filiation, quoi.
Toutes ces communautés, jusqu'à celles des années 60, 70, 80 même, qui ont existé et qui ont forgé cette histoire de la contre-culture et cette définition justement de ce qu'est une contre-culture, elles ont eu besoin, j'ai l'impression, pour s'installer d'un minimum de tranquillité à un moment. C'est-à-dire de pouvoir mener leur propre expérience dans leur coin avant de tomber sous l'œil à la fois du public, de la presse, des médias et de l'industrie qui, comme on le disait tout à l'heure, finit par en récupérer la surface. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ? Parce que les zones de tranquillité, les zones de marge, elles, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une impression fausse, qu'elles se restreignent au fur et à mesure que tout est partout.
C'est vrai que l'idée de marge est fondamentale dans la notion de contre-culture. Quand les dissenters, donc anglais, se tirent dans les Caraïbes, etc., ou que les pirates établissent leur contre-culture sur des bateaux, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à cette époque, la marge géographique, c'est encore ce grand et vaste océan, c'est l'autre monde de l'autre côté. Une fois que ce monde est colonisé, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'Ouest américain, donc on traverse, et là, c'est la Californie qui devient une terre de marge. Et petit à petit, comme ça... Toujours la marge est cherchée. Au partir du XXe siècle, ça va devenir la marge virtuelle, la marge du net. Parce qu'effectivement, le monde est entièrement comme ça occupé. Il n'y a plus de marge géographique, donc on va chercher ces marges ailleurs. Et quand on trouve parmi les pionniers du web, on retrouve des types, je pense par exemple à John Perry Barlow, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était un des pionniers du net, qui est parolier du Grateful Dead, et donc qu'on trouvait parmi les hippies, etc. Et qui a pondu une déclaration d'indépendance du web en disant « ceci est un autre monde où vous ne viendrez jamais », etc. Et là, on est dans l'essence pure de la contre-culture. Alors, est-ce que aujourd'hui il y en a encore ? Il y a toujours des marges. Parce que la contre-culture, je trouve que on peut assez bien la rapprocher de la notion de zone d'autonomie temporaire d'Akimbe. C'est-à-dire qu'elle peut éclore comme ça, à un moment donné, et hop, disparaître. Comme je pense aux rave parties, on en montrait l'exemple dans les années 90. C'est-à-dire que, hop, ils arrivent dans un endroit, pouf, on fait un petit festival, la communauté prend vie soudainement, comme ça, elle agrège les forces momentanément, et hop, tout le monde repart. Et donc ça, c'est encore possible, tout à fait possible. Les punks, par exemple, ils sont bien établis leur communauté dans des squats, dans des marges intérieures, des marges souterraines, des marges de zones qui sont délaissées, dans le milieu urbain hyper industrialisé. Donc ça, c'est encore possible.
Et dès demain va donc démarrer la mini-série de Karim Boukarcha et Quentin Bresson, Tectonique, danser, mourir, recommencer. Ne manquez pas le premier épisode, ce serait dommage. Merci à Steven Gézovanier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain donc pour un très bel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.